Je vous invite aujourd'hui à méditer sur une des premières guérisons de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, au verset 40. Un lépreux, nous dit-on, vint vers Jésus et se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. » Sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, et il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Et puis, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 11, « Moi, dit Jésus, je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, quand il voit venir le loup, il abandonne les brebis et il s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire, il ne se met pas en peine de ses brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai aussi d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut également que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et personne ne me l'ôte, mais c'est moi qui la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, des divisions parmi les Judéens. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » Mais d'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle. » Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Je vous invite à chanter dans Louange et prière le cantique 171, les strophes 1, 2 et 3, « Rends-toi maître de nos âmes », le cantique 171. Ô notre Dieu, donne-nous ton esprit pour que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire en ce jour. Donne-nous ton esprit pour que tu puisses faire ta demeure en nous. Donne-nous ton esprit pour renouveler en nous notre esprit. Donne-nous ton esprit pour que nous puissions vivre de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de cette nouveauté de vie que tu offres à chacun. Oui, Seigneur, viens toi-même parler à nos cœurs et à nos âmes. Nous en avons grandement besoin. Ce récit de la guérison d'un lépreux dans l'évangile de Marc au chapitre 1 à partir du verset 40 est une guérison somme toute assez banale et il y en a bien d'autres de ce genre dans l'évangile. Mais comme mon frère, j'ai un certain goût pour les textes qui ont des difficultés cachées. Et la difficulté de ce texte, elle n'apparaît pas vraiment dans nos traductions parce que depuis 2000 ans, les copistes et les traducteurs font tout pour nous cacher ce qu'il y a de dérangeant dans cette guérison. Et ce qu'il y a de dérangeant, c'est ce qui se trouve au verset 41. Toutes nos traductions disent que Jésus, devant le lépreux, est ému de compassion. C'est extrêmement sympathique. Et on est très heureux que Jésus compatisse au sort de ce pauvre malheureux qui est malade. Mais simplement, voilà, ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit, littéralement, le texte plus ancien dit, « Jésus, se mettant en colère, étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur ». Et donc voilà ce qui est curieux, c'est ce Jésus se mettant en colère. Et ce n'est pas tout, puisque un petit peu plus loin, au verset 43, de nouveau, le même problème se présente. Toutes nos traductions disent « Jésus fit de sévères recommandations aux lépreux pour qu'il ne n'aille pas trop en parler ». Mais le texte grec ne dit pas du tout qu'il y fait de sévères recommandations. Il utilise un verbe « embri maomé » qui veut dire « s'irriter »,« s'énerver contre quelqu'un ». Et donc là encore, un sentiment fondamentalement négatif à l'égard de ce pauvre lépreux, qui finalement devient l'objet de la colère et de l'irritation de Jésus. Certes, il en sort guéri, mais on ne voit pas très bien pourquoi tous ces sentiments négatifs du Christ. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que, du coup, ce texte, quand on le lit tel qu'il est, ne nous donne pas une image lisse de Jésus. Et cette idée que Jésus serait une sorte de personnage tout doux, bien gentil, finalement, a, je crois, fait beaucoup de tort à l'Évangile. C'est cette image qui a été véhiculée, en particulier dans les années 70, où l'on a présenté un Jésus peace and love. Vous savez, un Jésus avec les cheveux longs, finalement très, très, très mièvre, très doux, gentil avec tout le monde, très pacifique, et qui était en quelque sorte une sorte de, comme une icône des hippies de cette époque. Mais finalement, quand on regarde Jésus, on y trouve bien sûr de grands élans, de générosité, de bonté, de dévouement, mais en même temps, on trouve aussi un Jésus qui n'est pas si lisse que ça. Et en tout cas, on voit là que ce n'est pas si simple. Et même qu'il peut se mettre en colère contre quelqu'un qui, a priori, n'a pas fait grand-chose de mal. C'est assez embêtant, voire même contradictoire avec son propre enseignement. Vous savez que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, a même dit « Quiconque se met en colère contre son frère est passible du tribunal ». Alors donc, on comprend pourquoi cette colère de Jésus a semblé inacceptable à certains copistes et à certains traducteurs, et qu'ils ont tout fait pour aplatir le texte. Mais je n'aime pas les textes trop plats, et donc je voudrais, moi, aujourd'hui, vraiment me poser la question et me dire pourquoi Jésus s'est-il mis en colère à ce moment-là. Alors j'ai plusieurs pistes à vous proposer. L'une, c'est de ne pas essayer de justifier cette colère de Jésus. Et de dire, oui, voilà, Jésus s'est mis en colère. Eh bien, ça peut arriver à tout le monde. Et ça montre, d'une certaine manière, l'humanité du Christ. Et même si ça n'est pas bien de se mettre en colère, admettons, Jésus a eu tort. Il n'aurait pas dû se mettre en colère, ni s'irriter contre ce pauvre lépreux. Mais, eh bien, moi, ça me rassure de voir que Jésus peut être en colère. Alors, pourquoi a-t-il été en colère? Eh bien, là, il y a beaucoup de raisons pour cela. Peut-être qu'il était agacé par cette demande. Et c'est vrai, les gens nous demandent toujours au moment où ça nous arrange le moins. Eh bien, ça peut nous mettre en colère, ça peut nous énerver, nous irriter. Et pourtant, l'exemple est bon, puisque Jésus, certes, se met un peu en colère, il s'énerve, mais finalement, il va quand même guérir le lépreux. Et c'est peut-être ça l'essentiel. Peut-être même que ce lépreux était encore plus dérangeant qu'on imagine. Parce que, bon, oui, il devait le déranger au mauvais moment, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Parce que ce lépreux se jette aux pieds de Jésus. Et vous savez que la lèpre était déjà une maladie très contagieuse. Et que dans le judaïsme, le simple contact avec un lépreux suffisait à rendre impur celui qui avait donc un contact avec un lépreux. Autrement dit, dès le moment que le lépreux vient se jeter aux pieds de Jésus, Jésus est impur. Et il est soupçonné de lèpre. Et il doit être mis à l'écart de la société. Donc c'est extrêmement grave quand même de venir se jeter aux pieds de Jésus. Et on peut comprendre que humainement, eh bien Jésus ne soit pas content du tout de ce que fait ce lépreux qui vient le contaminer, le rendre impur. Et d'une certaine manière, lui force la main. Parce que dès le moment que le lépreux s'est approché de Jésus, Jésus n'a plus le choix. Soit il est à son tour exclu de la société, de la religion, et il est impur, et soit il guérit le lépreux pour se guérir lui-même, en quelque sorte. Donc le lépreux lui force la main. C'est peut-être ça qui a agacé Jésus. Jésus veut bien guérir, mais il n'aime pas qu'on lui force la main. Et ça, je le comprends aussi humainement. Moi, je veux bien faire du bien à des tas de gens, mais je déteste qu'on me force à faire du bien aux gens. Ça m'énerve. Et Jésus, peut-être, a été énervé par ça, par ce lépreux qui lui a forcé la main, en quelque sorte. Et donc, peut-être que Jésus a le droit d'être en colère, et il agit quand même. Il râle, mais finalement, il fait le boulot. Eh bien, c'est peut-être ça l'essentiel. Donc, voilà la première lecture possible. Bon, là, un certain mérite, c'est celle que l'on trouve le plus facilement dans les bons commentaires de l'Évangile, où on aime, et surtout les protestants aiment cela, pointer du doigt les signes de faiblesse du Christ pour montrer à quel point cela le rapproche de nous et pour montrer où est l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de se mettre en colère ou pas, l'essentiel, eh bien, c'est de faire le bien avec bonne humeur ou avec mauvaise humeur. Mais cela ne me satisfait pas pleinement, et peut-être que je suis un peu naïf, mais finalement, ces signes d'imperfection du Christ ne me plaisent pas tellement. Et j'aime penser que Jésus fait tout bien. Voilà. Et donc, je voudrais essayer de penser que cette colère de Jésus n'était pas simplement une faiblesse, une sorte d'égoïsme, mais que cette colère de Jésus ait pu être justifiée et bonne. Alors là, la solution que j'ai trouvée, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est de penser que peut-être que Jésus a bien fait de se mettre en colère. La seule raison que je trouverais, ce serait non pas celle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui ne tournerait qu'autour de la personne de Jésus, mais de se dire que Jésus ne se met pas en colère contre le lépreux, mais qu'il ressent devant cette situation une vive colère. Et effectivement, on peut le comprendre, que Jésus, devant cette situation, ressente un sentiment de révolte. Qu'il se mette en colère, parce que finalement la situation de ce lépreux est insupportable. Voilà quelqu'un, cet homme, rejeté de tous, qui est condamné à vivre hors de la ville, et qui n'a le droit de voir personne, de ne s'approcher de personne. Donc voilà l'image même de ce que l'on appelle aujourd'hui l'exclusion. Ce personnage qui, en plus, non seulement est exclu de la société, mais n'a même plus le droit de pratiquer sa religion, puisque le lépreux n'a évidemment pas le droit de s'approcher du temple. Il ne peut pas aller à la synagogue. Et donc voilà quelqu'un qui est exclu de tout, de la société, de la religion, de la possibilité de pratiquer. Quelqu'un qui finalement est complètement rejeté de la société. Pourquoi ? Parce qu'il a une maladie de peau. Et ça, c'est absolument insupportable, intolérable. Et la religion de l'époque va même plus loin, puisqu'elle disait, s'il est lépreux, c'est sans doute une punition de Dieu. C'est-à-dire, c'est parce qu'il a dû faire des péchés, voilà, donc il est puni. Et je pense que Jésus, devant cette situation, est pris à un moment donné d'une sorte de colère, d'indignation fondamentale. Et donc Jésus est en colère, et évidemment, juste après, il le guérit. C'est beaucoup plus cohérent que ce que l'on nous explique d'habitude en disant qu'il s'énerve contre le lépreux, mais bon, une sorte de personnage un peu bourru et il le guérira quand même. Non, il s'énerve et c'est parce qu'il est fondamentalement en colère qu'il va tout faire pour réintégrer le lépreux, pour le guérir. Il va réagir contre ça, il va le guérir et il va le réintégrer dans la société. Il va lui dire, ben tiens, toi maintenant, tu vas aller dans la ville, tu vas aller voir les prêtres, tu vas aller au temple et tu vas pouvoir retrouver ta place dans la société. Et je trouve que ça m'enthousiasme beaucoup. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui dans nos religions, dans notre société, de l'importance de la tolérance. Alors on dit, voilà, il faut être tolérant. Mot d'ailleurs qui n'existe pas dans la Bible à ma connaissance. Et la tolérance, c'est très bien. Quand il s'agit d'accepter qu'il y ait des gens qui n'ont pas la même religion que nous, d'accepter des gens qui n'aient pas la même couleur de peau que nous. Oui, moi je suis très tolérant à l'égard des catholiques, des juifs, mais même des musulmans. Il faut bien qu'il y en ait pour tous les goûts. Ça, c'est une vertu, certainement. Mais je crois que la tolérance en soi n'est pas la plus grande des vertus. C'est une vertu indispensable. Mais il y a aussi parfois de l'intolérable dans notre monde. Et il y a, je crois, des révoltes qu'il faut avoir. Il faut avoir des combats. Et il y a aussi parfois des saintes colères qu'il est bon d'avoir. Parce que on ne peut pas non plus dire oui, amen à tout. On ne peut pas dire tout se vaut, tout est égal, et finalement je ne me bats contre rien, je suis neutre, je suis d'accord avec tout le monde. Non, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Et Jésus, voyant cette société, cette religion institutionnalisée là, qui exclut les gens, qui les condamne, qui les culpabilise, il a un coup de gueule et il dit « excusez-moi, mais ça c'est intolérable ». Et donc cette violence de Jésus me semble tout à fait justifiée finalement. Et c'est un bon exemple pour nous, oui, on peut avoir de la colère contre certaines choses. Et donc il n'est pas mauvais nécessairement de se mettre en colère, peut-être de se mettre en colère contre quelqu'un, mais d'avoir une colère en général contre une situation, contre des idées, c'est peut-être une bonne chose. Le tout, c'est de savoir contre quoi on se met en colère. Le tout, c'est de ne pas se tromper de colère, de ne pas se tromper d'objet. Mais dans tous les cas, il est bon, je crois, qu'il y ait une dynamique. Et même dans l'amour, il faut qu'il y ait une dynamique. L'amour mièvre, l'amour peace and love, l'amour béni oui, n'est pas de l'amour. L'amour, ça peut être aussi, effectivement, un combat, de la colère, de l'indignation, une lutte. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et ça me fait penser d'ailleurs à un texte qui est d'un auteur très peu fréquentable, puisque c'est San Antonio, le célèbre auteur de policiers et de à goût douteux que vous connaissez sûrement, et qui a écrit une sorte de poème sur l'amour, sur la charité. Et curieusement, ce texte a été repris, je me couvre de caution absolument indiscutable, ça a été repris dans la très bonne revue du service des missions protestants, du DEFAP, qu'il a publié il y a quelque temps. Et voilà le texte de San Antonio. Il dit « Il n'y a qu'une vertu en ce monde, la charité. Et la charité, c'est quoi ? C'est de la colère. » Uniquement de la colère, car la charité consiste à s'indigner. La charité, ce n'est pas de chialer sur la misère du monde, mais c'est de la combattre. La charité n'est pas humble, elle est belliqueuse. La charité, c'est de l'amour, et en amour, il ne faut pas s'aplatir, parce que ça, c'est inopérant et négatif. La carpette, jamais. Dieu a horreur des serpillères. Alors bon, c'est dit à sa manière, hein, mais d'une certaine façon, je trouve qu'il y a là quelque chose d'assez évangélique et qui probablement se trouve dans ce texte, malgré les efforts louables depuis 2000 ans de nos théologiens pour faire disparaître cette colère. Bon, cela dit, mon explication n'explique quand même pas tout. Parce que au verset 43, je vous l'ai signalé au début, il semble bien quand même être dit que Jésus s'irrite contre le lépreux. Et donc ce n'est pas qu'une sorte de colère générale dans la situation qui lui semble intolérable. Il semble bien que Jésus s'irrite contre le lépreux, et qu'il l'envoie promener en quelque sorte. Alors pourquoi Jésus finalement est-il désagréable, je dirais, avec ce lépreux? Il le guérit d'abord, ensuite il lui dit « Allez, va-t'en ». On peut penser que d'abord c'est peut-être plutôt sympathique qu'il agit un peu, vous savez, comme c'est dans la nature, les parents animaux, quand ils ont des petits et quand ils considèrent qu'il est bon que les petits quittent le nid, eh bien, ils les jettent du bord du nid pour les forcer à s'envoler, pour qu'ils partent. Sinon, ils ne partiraient jamais. Peut-être y a-t-il, dans cette espèce de brusquerie de Jésus, quelque chose comme ça. Il ne cherche pas à le garder sous sa coupe, alors que ça aurait été le risque. Ce lépreux, tellement content d'être guéri par Jésus, finalement resterait comme dépendant de celui qui l'a guéri. Et le but de Jésus, ce n'est pas de rendre les gens dépendants, c'est de les rendre autonomes. Donc il le guérit, et ensuite il lui dit, « Eh bien maintenant, tu vas vivre ta vie. Allez, va vivre ta vie, débrouille-toi, éloigne-toi de moi en quelque sorte. » Donc il l'autonomise, il le rend à la société. Et même il lui dit, « Allez, va pratiquer ta religion. » Tu es juif, toi ton truc c'est d'aller donner des sacrifices au temple, eh bien vas-y, va te montrer aux prêtres et au temple et offre des sacrifices. Je pense que dans le fond Jésus, il l'a montré d'autres fois, il s'en fichait un peu, je dirais, des prêtres et des sacrifices, c'était pas du tout son affaire. Mais il renvoie le lépreux, je dirais, à sa propre pratique en quelque sorte. Et donc Jésus est tout sauf un chef de secte qui essaye de renfermer les gens et de les garder sous sa coupe. Et pour ça, peut-être faut-il un petit peu de brutalité et ne pas être trop gentil avec les gens. Et donc il l'envoie au temple. Et cet envoi au temple sera important non seulement parce qu'il permet aux lépreux de regagner sa communauté, mais aussi parce que ça permettra aux lépreux de trouver la dimension spirituelle du geste purement matériel que Jésus a fait. Et peut-être que sa crainte justement à Jésus, c'était de passer pour un guérisseur, pour un faiseur de miracles. Et donc il essaye de le forcer à intégrer ça dans une démarche spirituelle qui lui permettra d'aller plus loin. Et puis Jésus, finalement quand même, apparemment s'irrite contre lui. Et peut-être est-ce justifié. Tout à l'heure, j'avais trouvé une explication en disant Jésus, bon, un peu agacé par cette demande, mais peut-être que c'est plus grave que cela, et peut-être que d'une certaine manière, le lépreux a eu tort dans son attitude, et peut-être que le lépreux a mérité en quelque sorte cette espèce de colère ou d'irritation de Jésus. Parce qu'en effet, par-delà le petit confort de Jésus, ce que fait le lépreux va coûter extrêmement cher au Christ. Ça va lui coûter très cher, et Jésus le sait. Et Jésus sait que s'il agit à ce moment-là, s'il le guérit, cela aura pour lui des conséquences très importantes et un coût considérable. Parce qu'il va se mettre à dos tous les prêtres, et plus grave encore, dirais-je, il va être obligé de se présenter comme le Messie, de se révéler comme le Messie. Parce que guérir un lépreux, c'est un signe messianique, comme de ressusciter un mort. Donc dès le moment que Jésus ressuscite un lépreux et que les prêtres le savent, eh bien cela veut dire de Jésus, je proclame à tout le monde que c'est moi le Messie. Et ça n'est pas anodin. Alors, probablement que Jésus comprend que cela va avoir une importance assez considérable dans son existence. Et le lépreux, certainement aussi, a eu tort quand même. Oui, il n'a pas tort de demander à être guéri, mais on ne force pas les gens comme ça. Et quand on demande quelque chose à quelqu'un, il faut quand même aussi évaluer le prix que ça va coûter à la personne à qui l'on demande. Et le fait d'être soi-même handicapé, malade ou réduit à quelque chose ne donne pas tous les droits vis-à-vis de ceux auxquels on demande quelque chose. Donc je crois que le lépreux a eu tort d'une certaine manière. Et Jésus va le guérir, mais il va quand même lui dire qu'il a eu tort. Et là je trouve qu'une fois de plus, Jésus a une attitude très positive, parce que l'amour, il y a de la colère, je l'ai dit, mais dans l'amour, il y a aussi une question de vérité. Et donc l'amour, certainement, c'est de compatir, et quelqu'un a besoin que je l'aide, je l'aide. Mais l'amour, c'est aussi de dire les choses aux gens. Et donc là, Jésus va lui dire quelque chose. Il va lui dire, et il va lui montrer que Jésus va montrer au lépreux qu'il le guérit, mais que ça n'est pas si simple, et que par derrière, il y a quand même des problèmes, en quelque sorte. Alors je vous disais, Jésus râle en quelque sorte, mais il n'hésite pas à le faire. Donc il fait le bien et il va montrer au lépreux ce que cela va lui coûter. Il l'assume, mais il le dit. Et le lépreux va donc le forcer à se révéler un peu plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Exactement comme dans l'évangile de Jean, quand Jésus dira à sa mère « Mon heure n'est pas encore venue ». C'est-à-dire « c'est pas le moment ». Et pourtant, il va le faire quand même. On a quelque chose d'extrêmement parallèle, en quelque sorte. Et c'est vrai que ça n'est pas si simple de se jeter dans le monde pour Jésus, d'aller agir, de donner, de faire pour les autres. Et ce n'est pas si facile, il y a toujours des réticences, en ce qui nous concerne, en tout cas. Et je trouve que la qualité de Jésus, c'est qu'il va accepter de se laisser déranger par l'autre, mais qu'en même temps, il va aussi dire ce qui le dérange. Et là, c'est quelque chose que j'aime dire aux enfants dans les écoles bibliques, parce que c'est toujours très difficile d'expliquer aux enfants que le chrétien, c'est celui qui est bon avec tout le monde, et comme dans le sermon sur la montagne, où l'on dit « si on te prend ton manteau, donne aussi ta tunique, et si on te force à faire 100 pas, fais-en 1000, ou 1000 ou 10 000 ». Et donc, les enfants ne sont pas très disposés à dire « ben oui, moi je veux bien, mais si je suis gentil, je vais passer pour le pigeon de service ». Et le chrétien n'a pas envie d'être une bonne poire. Et c'est très difficile de trouver la manière avec laquelle nous pouvons, dans ce monde, faire le bien sans passer pour des pigeons ou pour des bonnes poires, ce qui serait fondamentalement improductif et ce qui serait une sorte de contre-témoignage, parce que je crois que personne n'a envie d'être un pigeon ou une bonne poire. Eh bien, je trouve qu'il y a, justement, dans ce texte, quelque chose qui nous permet de saisir comment le chrétien peut faire le bien sans passer pour une bonne poire. Eh bien, cela consiste à faire le bien, mais à dire aussi ce que ça coûte. Et par conséquent, le chrétien, ce n'est pas celui qui fera sans rien dire ce que personne ne veut faire, mais celui qui dira « Écoutez, personne ne veut faire ça. Moi, je veux bien le faire. Mais si je le fais, ce n'est pas parce que ça m'amuse, ou ce n'est pas parce que je suis trop faible, ou parce que j'ai peur du sentiment des autres. Mais je le fais par conviction, parce que je crois qu'il faut que quelqu'un le fasse, et donc, pour vous, je le ferai, même si ça m'embête. » Par conséquent, je crois que de dire les choses, ça permet de montrer qu'on ne fait pas les choses par faiblesse, mais qu'on les fait par conviction. Et je trouve la même chose dans ce texte de Jean, au chapitre 10, quand Jésus dit, à mon avis, une des plus belles phrases qui soit et qui explique le sens de son attitude là-dedans. Quand Jésus dit « Ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne ». Et je crois qu'il y a là, justement, le fondement du don chrétien. Le don chrétien, ce n'est pas une faiblesse. Le don chrétien, ce n'est pas de ne rien oser dire parce qu'on est un peu piégé par les autres. Mais le don chrétien, c'est de dire, je le fais non pas par faiblesse, mais par conviction. Et si je le fais, ce n'est pas qu'on me le prend, c'est moi qui, volontairement, le donne. Et la conséquence de tout ça, eh bien ce sera une sorte de transfert. Le lépreux sera purifié, il pourra aller dans la ville, et c'est Jésus qui, curieusement, d'après notre texte, sera chassé des villes et devra vivre dans les lieux déserts, exactement comme un lépreux. Donc finalement, Jésus va échanger sa position avec le lépreux, il va comme prendre sur lui, je dirais, l'exclusion du lépreux. Et on ne peut être que saisi là par le fait que l'on trouve une des illustrations concrètes de ce grand thème du bouc émissaire, et que l'on a souvent en théologie attribué à Jésus, lui qui meurt à notre place, lui qui se charge de notre péché, lui qui n'est pas pécheur. Et là, il meurt comme un pécheur, comme là Jésus guérit le lépreux et est condamné à être comme un lépreux, exclu à son tour. Et c'est par cet acte de générosité que la grâce fait irruption dans nos vies de pécheurs, par cet acte de générosité et par cette capacité à Jésus à nous placer devant les situations, devant la vérité des choses, que nous pouvons à la fois être guéris, que nous pouvons être libérés et que nous pouvons ainsi avoir la vie et être libres de toutes les conséquences de notre péché et de notre impureté. Amen.